Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h à Tessalit, c'est dans la région de Kidal. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. Les derniers soldats français ont quitté Tessalit hier, indique un communiqué de l'état-major français. Le transfert du camp aux forces armées maliennes a été maîtrisé et coordonné selon les autorités françaises. La 9e édition des journées minières et pétrolières du Mali a démarré ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Cet événement a pour objectif de partager la vision du gouvernement et d'échanger avec les acteurs du secteur. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'application du henné. De nos jours, la pratique est devenue une mode. Qui doit donc appliquer le henné et à quelle occasion doit-on l'appliquer? La réponse dans ce journal. Je suis Hamsitou Touré à la présentation. Le retrait progressif de l'opération Barkhane se poursuit au nord du pays. La force française a transféré le week-end passé le camp de Tessalit dans la région de Kidal aux forces armées maliennes. C'était en présence de nombreux officiers maliens et français. Ce départ des forces françaises de Tessalit intervient après celui de Kidal il y a quelques semaines. Oumar Waïgalo.
Les derniers soldats français ont quitté Tessalit hier, indique un communiqué de l'état-major français. Le transfert du camp aux forces armées maliennes a été effectué le 13 novembre passé. Il a été progressivement maîtrisé, étroitement coordonné avec les FAMA et l'aménagement, estime les autorités françaises. Elles déclarent aussi que ce transfert a été précédé par des entraînements et un partage de savoirs entre les militaires maliens et l'armée française. L'objectif est que les nouveaux occupants du camp de Tessalit puissent défendre l'emprise et faire face aux menaces djihadistes. Rappelons que ce transfert du camp de Tessalit a été précédé par celui de Kidal. Il rentre dans le cadre de la réorganisation des forces françaises déployées dans la région du Sahel. La France envisage de fermer aussi sa base à Tombouctou. Celle-ci sera également transférée à l'armée malienne.
Sur le même sujet, pour Boubacar Salif Traoré, spécialiste des questions sécuritaires, ce repositionnement de l'armée malienne est un pas important pour la sécurité du pays. Il estime aussi que le retrait des forces armées françaises de la région de Kidal pourrait faciliter le retour de l'administration malienne. Il est joint au téléphone par Alimatou Yattara.
Effectivement, le repositionnement des FAMA dans cette zone de Tessalit, un signal très important. Ça montre quelque part que l'État est en train d'étendre sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, ce qui est un signal assez important. Ça montre aussi qu'il y a une montée en puissance des FAMA qui pourrait bien évidemment contribuer à la sécurisation de la zone. L'armée malienne s'est beaucoup équipée ces derniers temps. Nous avons vu la livraison de 4 hélicoptères russes. Il y a des avions qui avaient été commandés par le passé et l'armée n'a jamais cessé de se former. Donc, quelque part, je pense qu'ils ont les capacités de faire face. L'objectif final recherché, c'est cela. C'est-à-dire, on déploie d'abord l'armée. L'armée sécurise la zone et cela va permettre le déploiement de l'administration qui est une demande assez importante.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Après plus de 3 mois de captivité, l'artiste Amadou Kébédi Dorkeb et son compagnon Ousmane Koulibaly Di Bakosi ont été libérés ce lundi 15 novembre 2021. Ils ont été enlevés le 29 juillet 2021 à Goundam, dans la région de Tombouctou. À son arrivée aujourd'hui à Bamako, Dorkeb, accompagné de Bakosi, a été reçu par le président de la transition, Assimi Goïta. Les 27 États membres de l'Union européenne sont pour une sanction contre les autorités de la transition au Mali. L'information est du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, publiée lundi 15 novembre 2021. L'UE envisage aussi de sanctionner le groupe russe de mercenaires Wagner, dont les Occidentaux craignent une intervention au Mali. Autre sujet, le 3e sommet des filles africaines s'est ouvert ce matin à Niamey au Niger. Il se tiendra jusqu'au 18 novembre prochain sous l'égide de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, et du Comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant. Les détails avec Assetou Kanté.
Les discussions de ce troisième sommet des filles africaines portent entre autres sur la question du mariage précoce, les mutilations génitales ou encore l'accès des filles à l'éducation. L'un des objectifs de ce sommet est d'inciter les gouvernements africains à adopter des politiques visant à favoriser la scolarisation des filles. Pour le représentant d'UNICEF Niger, Stefano Savi, il y a une attention énorme sur la question de l'accès des filles à l'éducation, mais surtout de les garder à l'école jusqu'à la fin du cycle secondaire. Il y a des personnalités qui doivent être sensibilisées et mobilisées pour faire avancer l'éducation des filles, qui est la clé pour résoudre de nombreux défis. Cette rencontre a réuni des délégations venant des 55 États membres de l'Union africaine, ainsi que 2000 jeunes filles et représentants d'organisations féministes. Parmi les défis auxquels le continent doit faire face, figure notamment la question démographique. La jeunesse est très impliquée, très active. Donc, j'espère que tout cela nous donnera des résultats intéressants pour le futur des filles, mais aussi pour les jeunes hommes dans ce pays, conclut le représentant de l'UNICEF.
Le sous-préfet de Sansandeng et sa famille ont échappé à une tentative d'enlèvement dans la nuit du 8 au 9 novembre 2021. Suite à cet échec d'enlèvement, les administrateurs civils demandent au gouvernement d'assurer la sécurité des commandants, préfets et sous-préfets. Dans un communiqué conjoint, le syndicat autonome des administrateurs civils, le syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale ont exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des menaces dont ils sont victimes. Cheikh Traoré est le secrétaire général par intérim du syndicat autonome des administrateurs civils. Il est joint au téléphone par Assitou Kanté.
Des individus armés ont fait irruption chez lui pour l'enlever, ainsi que certains membres de sa famille. Mais heureusement, il a pu s'en tirer avec les membres de sa famille. Nous déplorons cet état de fait-là, parce que quand l'incident se passait, il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas d'agent de sécurité. C'est ce que nous avons toujours décrié. D'autant plus qu'entre nous et le gouvernement, dans nos différents PV de conciliation, la sécurisation des représentants de l'État est un accord. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi de tels événements continuent à se passer. Nous n'allons jamais cesser de parler de l'insécurité des représentants de l'État. Et si le gouvernement ne remplit pas ses engagements, ce sera aux militants de décider quelle action il faut entreprendre pour que les représentants de l'État soient sécurisés dans le cadre de leur travail.
Je l'annonçais tantôt dans les titres, la 9e édition des journées minières et pétrolières du Mali s'est ouverte ce matin au Centre international de conférence de Bamako sous le thème « Développement du contenu en jeu, perspective et rôle de l'État ». Cet événement organisé par le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau permet au gouvernement de partager sa vision et d'échanger de l'avenir des industries minières et pétrolières nationales avec les principales parties prenantes du pays. Pour le ministre des Mines, il s'agit d'une plateforme commerciale cruciale pour les professionnels des industries minières et pétrolières. Sidou Lamine Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, est au micro de Hawa Berthe.
Un secteur qui n'a point été épargné par la crise de la COVID-19 qui a fait plonger de 35% les flux mondiaux d'investissements directs étrangers selon le rapport 2021 sur l'investissement dans le monde de la CNESET. L'environnement minier au Mali est également contrarié par l'orpaillage illégal. Une lutte implacable contre les dragages et l'orpaillage illégal est en cours depuis janvier 2021. Malgré ces difficultés, le secteur minier a continué de remplir son rôle de pourvoyeur de fonds pour l'État. La valeur totale des exportations a augmenté, passant de 1 870 milliards en 2019 à 1 971 milliards en 2020. La contribution du secteur au budget national s'est chiffrée à 450 milliards de francs CFA en 2020 contre 403 milliards en 2019.
Le aîné entre tradition et modernité, la pratique devient la mode à Bamako. Des jeunes femmes mariées ou pas adoptent le aîné alors que les traditionalistes estiment que ce produit ne doit pas être en principe utilisé par toutes les femmes. Qui donc est habilité à appliquer le aîné et à quelle occasion? Alimatou Yatara nous en dit plus.
Les aînés appliqués laissent apparaître des designs, taillis et figures géométriques, jolies sur les mains et les pieds. Celles qui l'utilisent expliquent leur choix par l'envie de paraître coquette.
J'aime appliquer du aîné parce que je suis mariée et ça fait plaisir à mon mari quand je le porte. Je ne suis pas encore mariée, mais j'aime appliquer du aîné, surtout en temps d'événement. Je fais du gommage avec et c'est bon pour la peau.
Les traditionnalistes expliquent que l'utilisation du aîné est conditionnée au statut social de la femme. Autrefois, dans nos sociétés traditionnelles, seule la nouvelle mariée et ou les vieilles dames portaient le henné, affirme Bintou Sako, traditionnaliste.
Auparavant, mettre du henné sur les pieds montre que tu es mariée. Ou quand ton mari part en voyage, tu te fais belle avec du henné pour l'accueillir. Et c'est à travers cela que les gens découvrent que ton mari est de retour du voyage. Autrefois, les filles célibataires ne portaient pas du henné. Mais de nos jours, elles en portent et c'est étonnant.
Le henné est une plante recherchée pour ses vertus. Selon les observateurs, il peut être aussi un remède pour les femmes en quête de mari d'histoire traditionnelle.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région, une rencontre d'échange sur les technologies et innovations agricoles testées dans le parc de la commune rurale de Mpesoba s'est tenue le week-end dernier à Koutiala. Une centaine de producteurs agricoles, de chercheurs, d'élus, de leaders communautaires et de représentants de services techniques y ont participé. L'activité s'inscrivait dans le cadre de la journée paysanne du projet Africa Rising de l'ICRISAD, Institut international de recherche sur les cultures et zones tropicales semi-arides. Elle a été organisée par l'ONG AMED. Nous recevons à présent Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Hamsatou Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Dans notre émission de ce soir, nous allons débattre de la réglementation des mototaxis. L'ONT a entrepris cette semaine une vaste campagne de réglementation du secteur. Une initiative qui vient s'ajouter à celle de la mairie du district de Bamako. Pour en parler, nous avons fait appel à trois personnes. Fousseni Traoré de l'Office national des transports ONT, Brima Djiré de la mairie du district de Bamako et Adama Traoré du syndicat des mototaxis. Et Hamsatou Gogo Touré, le débat se fera en langue nationale Bambara.
Merci Mariam et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. Le Haut Conseil des collectivités du Mali s'est réuni ce mardi 16 novembre 2021 pour sa deuxième session ordinaire. Cette rencontre est consacrée à la problématique de la création de la police territoriale dans le projet de loi. L'institution, la police territoriale, est placée sous l'autorité du président de l'organe exécutif de la collectivité territoriale de région ou du district qui en assure la coordination, la gestion et l'emploi relève de la compétence de la commune. Dans le texte, la police territoriale est compétente en matière de sécurité des personnes et des biens, de maintien de l'ordre public sur les voies publiques, de prévention des actes malveillants et de veille sur la tranquillité publique. Quelle est donc la différence entre cette police et la police nationale qui pourra être son apport dans le rétablissement de la sécurité du pays? Abdramane Cissé, directeur général des collectivités territoriales, répond aux questions de Dramane Maïga.
La police territoriale, c'est la police créée par les communes, mais dans le cadre de la loi, pour pouvoir les aider, les communes en question, à mettre en œuvre les pouvoirs de police administrative que la loi leur confère. Le Mali n'a pas une grande expérience de la police territoriale. Il y a un problème de sémantique, les gens parlent de police territoriale, de police municipale, de police communale, mais c'est la même chose. C'est l'instrument de mise en œuvre des mesures de police administrative dont disposent les maires de manière générale. Et c'est la base de cette création qui est dotée de personnel, qui est dotée de ressources matérielles, de ressources financières.
Quelle est la différence entre cette police et la police nationale?
La seule différence, c'est que cette police-là, c'est le personnel fonctionnaire des collectivités territoriales et il assure des mesures de police de proximité pour pouvoir aider les maires dans la mise en œuvre de leurs prérogatives en matière administrative. Nous sommes dans le processus de création parce que le principe même de la mise en place de la police territoriale, c'est d'abord le cadre législatif et réglementaire. Et c'est dans ce cadre-là que le Haut Conseil des collectivités a estimé bon, en tant qu'institution chargée de la promotion de la décentralisation de manière générale, d'organiser cette session pour informer les élus sur la problématique. Le processus est en cours, c'est-à-dire que c'est un processus qui a commencé depuis 2018.
Le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis 2012. Qu'est-ce que cette police peut apporter en matière de paix et de quiétude?
Les expériences réussies ailleurs, par exemple au Burkina, qui a une grande expérience à la matière, et même l'expérience française aussi a été explorée en son temps pour nous amener à proposer des textes qui soient adaptés au contexte malien, aux réalités du Mali. Bon, il y a des prérogatives qui peuvent être mieux exécutées au niveau le plus approprié que le niveau national, qui peut être le niveau communal, le niveau local ou le niveau régional. Dans cette crise, le concours de tous les Maliens est attendu. S'il advient que l'État met en place cette police territoriale, c'est comme une police de proximité qui est plus proche des populations, qui peut être un outil d'information, de sensibilisation, mais elle ne remplace pas la police nationale, mais intervient là où s'arrête peut-être la police nationale. Vous savez, la police nationale, c'est dans les centres urbains, mais il n'y a pas de substitution, mais c'est plutôt une complémentarité entre l'action de la police nationale et des autres forces de sécurité et la population.